un mot avant de parler de Philippe Cadic, on va parler d'Étienne Barillet. Il y aurait beaucoup de choses à vous dire, mais on va rester sur le plan strictement professionnel ce soir. Étienne... Pardon. Du coup, on a la chance en France d'avoir des grands érudits, et Étienne fait partie de ces grands érudits. Il est capable de vous raconter et de vous parler toute la nuit de Fantomas, par exemple. Il est capable de vous parler toute la nuit de Star Wars et de tout un tas de choses. Il fait notamment le Palais des Déviants. Excellente émission, un petit peu à la bourre ces derniers temps, sur le web, web radio, une émission web radio,
un podcast.
Si on peut souhaiter moderne, on s'en sort pas. Il est capable de vous tenir le crachoir toute une nuit sur le steampunk, car c'est aussi le spécialiste français du steampunk, et parmi ses nombreuses spécialités, hormis la cuisine qu'il fait très bien, il y a aussi Philippe Cassini. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et donc, sur Philippe Cadic, aujourd'hui, il a fait le petit guide à travailler de Philippe Cadic, mais il tient surtout le site de référence aujourd'hui qui s'appelle dickien.fr et que je vous invite à consulter, qui est un site véritablement source avec un maximum d'informations sur Philippe Cadic, et il y a pas mal à en dire. Sur cette soirée, on va peut-être déjà commencer à parler de Philippe Cadic en lui-même, né en 1928. Peut-être un petit mot sur les premières années de sa vie qui nous donneront des pistes pour après, Étienne.
Oui, bonjour. Les premières années de sa vie, c'est-à-dire
sa naissance, son enfance, sa sœur.
Oui, donc 1928... les époux Dick ont des jumeaux, donc Jane et Philippe. Tous les deux sont prématurés de 6 semaines. Malheureusement, pour quantité de raisons, principalement des problèmes de malnutrition, la petite fille décède rapidement. Les parents sont persuadés que le petit Philippe ne va pas survivre. Et ils prennent la décision de faire construire une tombe double dans le Colorado pour accueillir les enfants. Et donc, Philippe a survécu. Et il a vécu donc jusqu'en 1982 avec cette tombe. D'un côté, c'était Jane qui l'attendait. Et de l'autre côté, il est marqué Philippe 1928-. Bon, après ça, il devient un des rares auteurs de science-fiction à être qualifié par le Times comme un des écrivains les plus importants, des écrivains américains les plus importants du XXe siècle. Philippe Cadic, aujourd'hui, c'est 12 films adaptés de son œuvre. C'est des opéras, des pièces de théâtre. Il y en a une qui a tourné en France l'année dernière. Des musiciens, de la musique classique et de la musique baroque, du rock and roll, des bandes dessinées, beaucoup. Sa correspondance a été publiée dans 6 volumes aux États-Unis. Il est le premier écrivain de science-fiction à être entré dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis, dans une sélection de 3 volumes qui présentent une sélection de son œuvre. Et il y a même eu un laboratoire informatique qui a construit un androïde à son effigie, avec qui vous pouviez avoir une conversation. Mais comme nous sommes déjà dans des territoires dickiens, un jour, ils ont perdu la tête de l'androïde, qui depuis se balade quelque part aux États-Unis. On la recherche toujours, activement.
C'est incroyable. Si on reprend un petit peu le fil, est-ce qu'on sait à partir de quel moment il rencontre la science-fiction et quels étaient ses auteurs préférés à ce moment-là?
C'est un gamin, aujourd'hui on dirait que c'est un gamin surdoué. Sauf que dans les années 40, le concept d'enfant précoce n'existait pas réellement. Mais par contre, sa mère était fan de psychanalyse et l'amenait voir beaucoup de psychiatres. Il n'a jamais été diagnostiqué fou. Hein. Et il lisait aussi bien de la littérature que des pulps, donc ces petits fascicules de science-fiction qui, pour cause des restrictions de guerre, étaient imprimés sur du papier de très très mauvaise qualité et qui coûtaient 3 francs 6 sous. Donc, on a quelqu'un qui façonne son imaginaire totalement aux alentours de la science-fiction, qui, dès ses 10 ans, commence à écrire dans la rubrique des jeunes auteurs du quotidien local, et qui développe ce goût, et qui devient une vocation, une foi, il sera écrivain. De toute sa vie, il n'a exercé qu'un seul autre métier, quand il était vendeur chez un disquaire spécialisé en musique classique, à Berkeley, en Californie. Mais c'est tout. Pour le reste, il a accepté tous les aléas, toutes les souffrances, parfois. Sa deuxième femme raconte l'humiliation qu'il y avait à aller acheter de la viande chez un boucher animalier. C'est-à-dire, c'est le boucher qui vendait de la viande pour les chiens, pour les animaux de compagnie. Et qui voyait bien que les Dick, eux, ils venaient acheter de la viande pour la manger. Parce qu'il est... Mais Dick continue à écrire, il continue à essayer de placer des manuscrits, etc.
Alors justement, sur le début de sa carrière littéraire, tu as parlé avec cette rubrique des jeunes auteurs, comment est-ce qu'il devient progressivement écrivain professionnel? Quelles sont ses premières publications? Comment ça se fait tout ça et dans quel contexte?
En 1951, pour la somme extraordinaire de $75, il vend sa première nouvelle professionnelle. Il avait suivi la formation d'un érudit, Anthony Boucher, qui donnait des cours d'écriture, qui a un peu mis le pied à l'étrier à Dick. Bon, sauf que parfois, comme Dick souffrait d'agoraphobie, c'est sa mère ou sa femme qui allait assister au cours et qui après lui répétait ce qu'il avait pu dire. Donc il écrit des nouvelles sur un rythme effréné, parce que à $75 la nouvelle, vous pensez bien qu'il faut en publier une sacrée quantité si on doit payer un loyer, si on doit payer à manger, etc. Sa femme était encore étudiante à l'époque. Rapidement, il décide de manière très très pragmatique d'arrêter d'écrire des nouvelles, parce que il fallait taper une nouvelle, donc on mettait du papier de carbone pour faire 3, 4, 5 copies, envoyer ça à quantité d'éditeurs, et après on attendait les lettres de refus. Et il décide de se lancer dans l'écriture d'un roman, parce que vendre un roman allait rapporter plus que vendre 10 nouvelles. Et c'est son premier roman, Loterie solaire, qui, à sa sortie, est un triomphe. 100 000 exemplaires vendus. Et le problème, c'est que les suivants se sont toujours un peu moins vendus, et que Dick a souvent dit qu'il avait commencé très fort et qu'il n'avait cessé de baisser par la suite.
On est en quelle année pour Loterie solaire? À quel âge?
Là, on est encore à la fin des années 50. Dick travaille énormément. Si vous voulez, en 58, donc 51, première nouvelle publiée. En 58, il a déjà publié écrit 13 romans. Il a écrit 13 romans, 6 de science-fiction, ses 6 premiers, et 7 de littérature générale. Tous les romans de littérature générale ont tous, sans exception, été refusés. À tel point qu'on ne sait pas ce que le monde littéraire serait devenu si un seul de ses livres avait été publié. Il faut bien penser que Philip K. Dick, c'est un enfant de la Californie des années 50, plus précisément de ce microcosme de Berkeley, donc un fusionnement intellectuel de gauche, où on est très, très à l'avant-garde. Alors aujourd'hui, on verrait ça d'une façon un peu caricaturale, mais bon. Alors, ce qui fait que Dick, il vendait de la sous-littérature, il vendait de la science-fiction. Il y a cette anecdote qu'il avait racontée, que le jour où il avait vendu il reçut son premier livre, tout content, il l'avait ramené au magasin où il travaillait encore, et il l'avait jeté par terre dans le magasin, et du bout du pied, il l'avait traîné dans toute la boutique comme s'il dédaignait. Il était fier comme pas possible. Mais devant tout le monde, il fallait qu'il montre que c'était pas sérieux, il avait fait ça pour s'amuser. Alors qu'en réalité, il adorait la science-fiction. Mais en même temps, il aurait adoré pouvoir publier de la littérature de science-fiction, enfin de la littérature générale. Autre particularité, l'ensemble de ses romans ont été traduits dans le monde entier après sa mort. Et aujourd'hui encore, ils sont réédités actuellement par J'ai lu en poche. Ce sont des romans étranges, parce qu'on connaît très, enfin, on connaît le Dick romancier qui a la pleine mesure de ses moyens. Et on lit toujours ses livres avec l'image de ce qu'il a pu faire par la suite. Alors qu'il écrit des chroniques de la vie assez misérable de pauvres R en Californie au tournant des années 50. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de jazz, beaucoup de sexe. À mon avis, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas toujours plu. Et c'est des textes très très originaux qui, mis à part son premier, tiennent encore la distance d'un strict point de vue littéraire. Il est possible que certains de ses romans n'aient pas été pris justement parce qu'il publiait à côté de la science-fiction et que... Et voilà, c'est un mauvais genre.
Là, on est au tout début de sa carrière et de ses romans. Est-ce que les thématiques dickiennes sont déjà là dans ses premiers romans de science-fiction, L'Autrice solaire et les autres?
Le premier roman est vraiment influencé par Van Vogt, hein, le monde du noir, etc. Petit à petit, les thématiques de Dick apparaissent, notamment dans ses nouvelles, et présente un auteur qui prend à la fois possession de ses outils narratifs. Il est fascinant de lire les textes progressivement et de voir qu'il s'éloigne d'une narration traditionnelle pour adopter le point de vue multiple, qui pour lui est une des formes de narration qu'il va garder jusqu'à ses trois derniers romans, quasiment. Donc des points de vue multiples qu'il va complexifier vraiment au fur et à mesure des textes. De même que c'est quelqu'un qui va travailler énormément l'implicite. C'est-à-dire le travail sur le silence, le travail sur le... parfois sur l'absence de commentaires, le retrait du narrateur. Et là, c'est vraiment l'écrivain qui va au charbon et qui expérimente et qui développe des choses nouvelles. Donc les thèmes apparaissent très rapidement. On peut en citer rapidement 3 ou 4 parmi les plus importants. Le premier... c'est tout ce qui va concerner le trouble du réel, la perception de la réalité, avec la drogue. Dick, de son vivant, a été très tôt considéré comme un auteur de la drogue, une espèce de William Burroughs de la science-fiction. C'est une légende urbaine qui a été initialisée par Harlan Ellison dans son anthologie de science-fiction des années 60, Dangereuse Vision. Philip K. Dick, de sa vie, a pris une fois du LSD. Et il a fait un mauvais trip. Il a pris des drogues douces, mais ça, c'est le milieu qui voulait ça. Mais par contre, il a consommé, de façon quasiment industrielle, des amphétamines, qui, à l'époque, étaient prescrites de manière légale. Sauf qu'il allait voir plusieurs médecins qui lui prescrivaient tous de manière légale les amphétamines. Comment est-ce que vous voulez pouvoir écrire autant sans avoir l'apport énergétique qui fait que pendant X jours, il va rester éveillé et pouvoir écrire. Si on va visiter la maison Balzac, on peut voir sa cafetière dont il buvait litre après litre pour payer son train de vie. Heureusement que Balzac n'a pas connu les amphétamines, sinon la comédie humaine aurait fait et le problème, c'est que les amphétamines ont beaucoup abîmé Dick et expliquent qu'il est mort à peine 50 et quelques années. parce qu'il avait des soucis d'hypertension, qui, voilà, tout cela n'arrangeait pas cela.
Juste sur ces amphétamines, ça correspond à une période où il va en prendre toute sa vie.
Ça correspond jusqu'à, on va dire, jusqu'au tournant des années 70, où il va littéralement toucher le fond, se retrouver dans une convention de science-fiction au Canada. À la fin de la convention de science-fiction, il est en train de squatter chez des gens, et il parvient à se faire interner volontairement dans un centre pour cocaïnomanes, alors qu'il n'avait jamais touché à la cocaïne de sa vie, mais il les avait embobinés. Et de cette expérience, justement, il va tirer tout un roman, Substance Mort, qui est adapté au cinéma, hein, sous le titre original Scanner Darkly, où il raconte tout son quotidien d'avoir vécu au jour le jour avec toute une, avec affection, on va dire, une faune de drogués et de survivants de la drogue. Et après cela, ben voilà, je crois que quand tu as une personnalité addictive, tu fais que remplacer l'addiction par une autre en espérant qu'elle soit moins douloureuse. Quand Philippe K. Dick était venu à Metz en France en 77, au restaurant, il avait posé des petites pilules bleues à côté de son assiette. Et il y a un fan français qui voit ça et qui les prend et qui les avale. Et qui dit: Monsieur Dick, qu'est-ce qui va m'arriver ? Philippe K. Dick lui a répondu: ben, vous n'aurez pas mal à la tête. Donc, voilà, il y a eu une légende terrible, mais bon, hein, comme disait Oscar Wilde, il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais le problème, c'est que on a voulu, dans les années 60, dans les années 70, souvent pousser Dick dans des directions qui n'étaient pas les territoires qu'il explorait. La drogue est vraiment présente dans ses textes. De multiples formes. Je pense par exemple au dieu venu du centaure, ou dans une colonie spatiale, les colons, ben, ils sont moitié fous parce qu'ils sont coupés de toute nature. Et afin de pouvoir survivre et garder un peu de santé mentale, ils ont des poupées Barbie. Donc des poupées Barbie, des petits Ken, des maisons, des petits meubles, tout ça. Et ils prennent une drogue. Donc, traduite en français, on appelle ça le délice. Et cette drogue leur permet de plonger leur conscience dans l'univers de la poupée. Et donc, le temps de la drogue, ils oublient totalement le monde où ils sont. Et ils s'échappent. Malheureusement, un astronaute qui revient du centre, dire que c'est là une vision. Donc, le thème de la perturbation du réel, le réel perturbé, un chef-d'œuvre de Dick, Ubique, qui, pour la petite histoire, est actuellement disponible en France chez 10-18, donc dans une collection de littérature générale, sans qu'il y ait sur la couverture la mention science-fiction, présente le temps qui se met à régresser, où les objets semblent remonter dans le temps et que tout semble s'évaporer, retomber en poussière, mangé par une espèce d'entropie qui détruit un peu qui détruit le réel. Avec comme point d'orgue, ces personnages semi-vivants. Imaginez qu'à l'instant où vous allez mourir, par une invention quelconque, on parvient à vous placer dans un état de cryogénie, où votre agonie de quelques secondes va être prolongée pendant des années, ce qui fait que vos proches peuvent régulièrement vous faire revenir à la conscience quelques instants pour parler avec vous. Donc même la mort n'a plus de terminus. Le corollaire, si je ne peux plus faire confiance dans le réel, si je ne peux plus faire confiance à la perception de mes sens, eh bien, ça va être la paranoïa, Ça tombe bien, Dick était un grand paranoïaque, qui écrivait régulièrement au FBI, qui n'a jamais répondu. Mais bon, le problème avec les paranoïaques, c'est que des fois, ils ont raison. Dans les années 50, des agents du FBI étaient venus le voir pour lui proposer à lui et à sa femme de leur payer des études au Mexique, à condition qu'ils fassent des rapports régulièrement pour les groupes marxistes, communistes, trotskistes, américains au Mexico. Alors ça, c'est pas raconté par Dick, c'est raconté par sa femme. Parce que là, des fois, les paranoïaques ont raison. Donc, la paranoïa...
Simplement, juste une petite question pour le film. Ublick, c'est quelle année ?
68, de mémoire.
D'accord, 68.
Planète Hurlante, qui sera projetée samedi, est l'adaptation d'une nouvelle qui se déroule sur Terre après que la Terre ait été dévastée par un conflit entre l'Est et l'Ouest. Dick est un écrivain de la guerre froide. Et la paranoïa, enfin la peur du communiste, est présente. Parce que, comme tout Américain, des années 50-60, Philip K. Dick était anticommuniste. Non pas par idéologie, mais parce que c'était son bain culturel. Et cette paranoïa rampante qui parcourt son œuvre est toujours chez Dick à la fois la source d'une inquiétude profonde. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne peux pas faire confiance dans le réel, si je ne peux pas faire confiance dans mon voisin, finalement je ne peux peut-être pas me faire confiance à moi-même. Donc une angoisse qui cette fois va toucher à la métaphysique et est touchée à une réflexion purement littéraire, et c'est là que Philip K. Dick tire le lecteur loin des rivages de la science-fiction pour toucher pleinement à une réflexion d'ordre philosophique, parce que Dick lisait énormément de philosophie, aussi bien en latin, en grec, en allemand, et il réfléchissait souvent à voix haute directement dans ses textes. Je pense souvent à la nouvelle La fourmi électrique, qui raconte l'histoire d'un, aujourd'hui on dirait un golden boy, qui a tout pour réussir, si ce n'est qu'il a un accident de voiture idiot. Et il se retrouve à l'hôpital. Et le problème, c'est qu'au moment de le soigner, les médecins lui annoncent « On ne peut pas vous soigner, monsieur, vous êtes un robot. » Ah ? Et donc, il ouvre son torse. Il ouvre son torse et à l'intérieur, il y a des bobines avec des cartes perforées qui circulent. Mais il ne le savait pas. Il fait la seule chose qu'un personnage de Philip K. Dick va faire. Il réalise qu'il y a une bande qui passe qui est celle de la perception de la réalité. Et donc il va commencer à la ralentir ou l'accélérer. Et le monde autour de lui bouge complètement. Puis après, il va décider de la couper pour voir ce qui se passe. Avec cette inquiétude qui monte, est-ce que c'est sa perception à lui qui change ? Ou est-ce que parce que sa perception change, le monde entier se met à bouger ? L'idée de la fourmi électrique est à la fois typiquement dickienne et révèle à la fois une angoisse, une peur, mais à contrario une joie profonde, parce que il ne faut pas limiter justement. Enfin, là on a parlé de paranoïa, de folie, tout ça. Il y a la joie profonde qui est qu'au final, quoi qu'il arrive au personnage, il va toucher à l'humanité. Il va pouvoir, peut-être même l'espace d'un instant, mais c'est généralement plus que la plupart d'entre nous, se sentir parfaitement, totalement humain. Et de là, il y a une... je n'ai pas de meilleur mot qu'une joie à exprimer de cette constatation-là. Si ce n'est que pour atteindre cette joie-là, il faut bien souffrir souvent auparavant. Les textes de Dick sont des textes bourrés d'humour. Parce que là, je résume, et la chose qui est impossible à résumer, c'est l'humour. Dans Ubik, il y a ce personnage principal de Joe Chip. Hein, Chip, c'est une pièce à 3 francs 6 sous. C'est un raté. Comme 99% des personnages principaux des romans de Dick, ce sont des mâles américains ratés qui aiment des femmes castratrices. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, Joe Chip a une vie minable. Pardon. C'est quelqu'un de brillant, un réparateur de génie, mais socialement nul. Et il vit, enfin plutôt, il est prisonnier de son appartement parce que dans cette société futuriste, le capitalisme a été poussé à un tel degré qu'il faut mettre une petite pièce de monnaie dans votre porte pour qu'elle s'ouvre. Mais il a pas un sou, il est incapable de garder 3 francs 6 sous sur lui. Et il y a ce long passage qui est hallucinant, où il essaye de parler à sa porte, de s'ouvrir à crédit. Et alors la porte dit non, selon le règlement, je n'ai pas le droit de faire crédit. Oui, mais là, je suis chez moi. Oui, mais techniquement, vous devez payer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une hache et je vais défoncer la porte. Non, je serai forcé d'appeler la police et de porter plainte contre vous. Alors, on a ce sentiment de l'absurde, du kafkaïen moderne, voilà, qui est totalement savoureux, quoi.
Peut-être un petit mot, toujours dans les thématiques, sur la peur ou la défiance vis-à-vis du pouvoir.
Oui, parce que Philip K. Dick, fils de la guerre froide, est devenu le fils des années Nixon, qui ont quand même été une belle suppression des libertés individuelles de manière étatique et parfaitement volontaire. Donc, en grand paranoïaque, Philip K. Dick se méfiait considérablement de toute forme d'autorité. Et la première, c'était bien évidemment le gouvernement. Il y a, tout, dans l'ensemble de son œuvre, toujours des figures d'autorité. Un adepte de critique psychanalytique dirait que ce sont des figures paternelles, toujours négatives. Pardon. Toujours négatives. Je pense au roman « Couler mes larmes », dit le policier. Enfin, c'est un des plus beaux titres que je connaisse. Où justement le policier en question est une ordure finie, qui va changer et évoluer au fil du texte, mais qui est quelqu'un qui est au service du pouvoir. Couler mes larmes, dit le policier. Imaginez que vous êtes le présentateur vedette de toutes les États-Unis d'Amérique, que vous vous réveillez un matin dans un hôtel minable et que personne ne vous connaît, que personne ne vous a jamais vu. Et que vous vivez dans un état totalitaire. C'est un roman magnifique. Avec une particularité, le manuscrit qui a été traduit et publié en France n'est pas le manuscrit qui a été publié aux États-Unis. Il y a eu un micmac quelque part chez l'agent, et en fin de compte, il a envoyé un état précédent du manuscrit. Ce qui fait que notre édition a été retraduite par des fans aux États-Unis. Parce qu'on a tout un chapitre entier, enfin inédit, par rapport au reste du monde. Et c'est justement un chapitre où le personnage s'interroge sur les 12 formes différentes de l'amour, et il fait l'inventaire poétique des 12 façons différentes avec lesquelles on peut aimer. Et parmi ces 12 façons, il y a l'amour d'un lecteur pour son auteur. Ah, c'est mignon. Ouais.
Est-ce que. Alors, on a commencé à évoquer quand même les grands romans de Dick, hein, Substance Lore, Ubik. On peut peut-être s'arrêter sur Le Maître du Haut-Château, qui lui aussi a une histoire un petit peu particulière, à un moment un petit peu particulier de la carrière de Philip K. Dick.
Philip K. Dick et sa troisième femme Il va absolument en parler.
Non, c'est pas moi, c'est Edouard.
Donc, qui est une femme brillante, intellectuellement extrêmement vive, d'origine new-yorkaise, qui s'était installée en Californie. S'était reconverti dans une petite entreprise de bijoux artisanaux. Dick, lui, ne pouvait plus écrire. Il avait atteint le point où, après avoir publié et écrit et produit tellement, qu'il n'était plus capable d'écrire quelque chose. Et, si vous avez déjà vécu en couple, hein, si vous vous ennuyez, eh bien, la seule chose à faire, c'est d'aller casser les pieds de votre conjoint. Donc, Dick allait voir sa femme dans son atelier. Et est-ce, chérie, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux toucher ça? Oh, je l'ai cassé. Voilà. Et donc, sa femme, qui est une femme de caractère, se mettait en colère et a fini par lui dire « Non, je ne veux plus te voir ici. Tu vas dans ta cabane. » Parce qu'il s'était construit une cabane où il y avait sa chaîne, ses disques, sa machine à écrire. « Tu vas dans ta cabane. » Tu travailles. Donc lui, oui chérie, il y va un petit peu, il se met devant sa machine à écrire et il tape comme ça, quoi, tac tac tac, pour faire du bruit, pour qu'elle l'entende. Puis après, bon, il faisait tac tac tac, puis après il a fait quelques mots, puis après il a fait quelques phrases. Et en même temps, il était en train de lire le Yi Qing, hein, le livre des transmutations chinoises, qui est un livre de divination chinois, où on fait un tirage aléatoire et en fonction du résultat, on va dans le livre chercher une maxime cryptique. Ça le fascinait, ça fascinait sa femme, et il s'amusait à poser des questions aux Vikings, à faire leur tirage et à voir ce que le livre leur répondait. Et il a l'idée d'écrire un livre et que chaque fois qu'il se poserait une question sur ses personnages, il interrogerait le Viking. Donc faisant le tirage. Et selon ce qu'on lui disait, ça a orienté son roman. Et la créativité est revenue d'un seul coup. Le maître du Haut-Château est une uchronie. C'est une histoire parallèle. Il imagine que se serait-il passé si. Le si étant, que s'est-il passé si les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Sauf que Philippe K. Dick a comme idée de ne pas raconter les derniers combats, les derniers résistants américains en train de se... Non, on se situe après la défaite, quand les États-Unis sont un pays conquis, et que comme dans tous les pays conquis, eh bien, on a adopté les mœurs et coutumes des conquérants. Donc nous sommes dans les États-Unis qui ont été partagés en deux, d'un côté les États-Unis nazis, et de l'autre côté les États-Unis réservés au Japon. La principale particularité de ce roman, c'est que quand on le lit, on est dans une culture à la fois proche, mais extrêmement dérangeante, parce qu'on est dans un nazisme américanisé du quotidien. Donc c'est glaçant, parce qu'il y a quelques allusions, mais terriblement fines, à ce qui se passe du côté de Brooklyn dans les camps. C'est tout. Nous comprenons, Dick n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on comprenne. Mais comme c'est un roman de Philip K. Dick, dans cette uchronie qui imagine que se serait-il passé si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, un écrivain caché a écrit un livre qui imagine que se serait-il passé si les Alliés avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes devant deux miroirs face à face qui se regardent en permanence et on ne sait plus où commence la fiction, où s'arrête le réel et où est-ce que moi en tant que lecteur, où est-ce que je me situe? Est-ce que toute ma vie est une fiction racontée dans un livre ou est-ce que je suis dans le réel et je suis confortablement en train de lire un livre de science-fiction? Et ce roman, à sa sortie, remporte le prix Hugo, qui est le prix le plus prestigieux en matière de science-fiction américaine. Ce qui est à la fois pour Dick une formidable reconnaissance de la part de la profession, et aussi de l'énergie qui revient pour recommencer à écrire, et à repartir un peu en avant.
Sauf qu'il y a une petite histoire supplémentaire, puisqu'il y a une nouvelle édition chez lui dans la collection du Millénaire. C'est deux chapitres de la suite du Maître du Haut-Château. Il n'a écrit que ces deux chapitres-là.
Il a envisagé plusieurs fois de faire une suite à ce roman, mais c'était trop dur. Pour lui, c'était physiquement impossible de replonger de nouveau dans l'univers de cette fiction, parce qu'elle avait été trop, enfin, émotionnellement trop difficile à écrire. Je ne saurais trop vous encourager à le lire, surtout dans cette nouvelle traduction. Il y a des pages qui sont absolument glaçantes. Splendides, parce que c'est magnifiquement écrit, mais glaçantes, parce que c'est une plongée dans le mal. Mais le mal vécu au quotidien, de façon tout ce qu'il y a plus normal.
Tu nous as parlé d'un Philippe Kadic, on a dit paranoïaque, pas sûr de lui, etc. Quel type de bonhomme c'était ? Quel type d'homme était-il ?
Alors, il y a, à ce jour, 5 biographies qui ont été écrites sur Philippe Kadic, dont une en France par Emmanuel Carrère, c'était donc avant son livre neuf, hein, « Je suis vivant et vous êtes mort », qui est une biographie romancée. On va dire tout simplement que Philippe Kadic, c'était compliqué. Donc, il a été marié 5 fois, il a eu beaucoup de petites copines, et il ne pouvait pas se fixer. Il a eu des enfants qui l'adoraient et qui l'adoraient lui en tant que père. Il a été d'une intégrité absolue par rapport à son œuvre. Il a été un salopard par rapport à certaines personnes. Il a dénoncé des amis au FBI. C'est pas joli, joli. Voilà. Quelqu'un d'une complexité absolue. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le perçoit par des témoignages, par des récits de personnes qui l'ont aimé, de personnes qui ne l'ont pas aimé, et qu'au final, on obtient toujours un portrait extrêmement kaléidoscopique, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui connaissaient le même Dick. C'est d'ailleurs ce qui était fascinant. C'est voir que la somme des témoignages n'arrive pas à épuiser qui il était. Je pense que c'était quelqu'un de doux, quelqu'un de fragile, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a aimé, qui aimait rire, qui aimait la musique, et surtout qui aimait les chats.
Très bien. Là, on a parlé d'une bonne partie de sa carrière, hein, jusqu'aux années 70. J'aimerais qu'on évoque, parce que le temps file, on a beaucoup de questions encore à évoquer, peut-être justement la fin de sa carrière, avec notamment la trilogie divine. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et quelle image on en garde de tout ça ?
Alors, je vais être extraordinairement bref. Février-mars 1974. Philippe Kadic s'est fait opérer des dents de sagesse. Il a affreusement mal. Il téléphone à la pharmacie et une jeune femme lui apporte sa livraison d'analgésique afin de faire passer la douleur. Quand il voit cette jeune femme, elle porte autour du cou un collier en forme de poisson. Et se produit à cet instant précis ce que Dick a appelé un moment d'anamnèse, c'est-à-dire le retour du souvenir oublié. Dick se souvient qu'il est un chrétien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Thomas, qu'il est dans une réalité fausse. Il est frappé par un rayon de lumière rose qui lui transmet énormément d'informations, notamment parmi lesquelles on lui apprend que son fils est atteint d'une... Son fils, qui avait quelques semaines à peine, est atteint d'une malformation congénitale et qu'il va mourir. Il le dit à sa femme, sa cinquième, qui lui enfile en couche-toi. Il insiste, le voyant particulièrement inquiet, elle accepte, ils vont voir le médecin en urgence, et le médecin confirme le diagnostic, l'enfant est opéré dans la foulée, il avait effectivement une hernie inguinale qui était en train d'exploser. Là, je ne vous donne que des faits. À la fin de sa vie, Dick donc, a souvent entendu des voix, il a souvent eu des visions, Dieu lui a parlé. Donc, je prends ça pour ce que c'est. Parce que je n'oublie pas que pendant toute sa vie, Blaise Pascal a porté cousu dans le revers de la veste qu'il portait, qu'il faisait déplacer de costume en costume, une feuille de papier où il racontait la nuit de feu qu'il avait vécue et toutes les visions mystiques qu'il avait eues durant cette nuit-là. Que quelqu'un vienne me dire « Blaise Pascal était fou », et je pourrais lui répondre « Philippe Cadic aussi ». Tout ce que je sais, c'est que Philippe Cadic a passé les 10 dernières années de sa vie à écrire. Ça fait un volume de 8000 pages. 8000 pages, c'est haut comme ça. Qu'il n'avait jamais l'intention de publier. Une sélection de 800 pages est sortie l'année dernière et devrait être traduite en France et publiée en France l'année prochaine. Cela s'appelle l'exégèse. Et il y envisage toutes les possibilités, toutes les explications possibles pour comprendre ce qui m'est arrivé. Oui, voilà, j'ai vu Dieu. Est-ce que je suis fou ? Donc il envisage la possibilité. Est-ce que c'est parce que j'ai pris trop de vitamine C ? Parce que, bon, bien prenez... est-ce que c'est parce que j'ai fait une épilepsie du lobe temporal qui entraîne des hallucinations ? Est-ce que c'est les Russes qui font des expériences de transmission de la pensée ? Surtout qu'à cette période, il avait reçu une lettre d'un scientifique russe qui était fan et qui lui avait écrit. Est-ce que c'est que quelque chose se passe en moi et que je suis en train de perdre pied ? Voilà. Aucun psychiatre n'a jamais déclaré Dick fou. Compliqué ? Oui. Fou ? Jamais. Non. Alors, moi, je l'accepte pour ce que c'est. Je l'accepte pour ce que les gens qui l'ont connu et qui vivaient ou qui étaient amis avec lui à l'époque témoignent de, oui, ben des fois, il passait des soirées entières à nous deux expliquer ses théories. C'était un peu notre ami bizarre. Mais des fois, il n'en parlait plus du tout. Ou des fois, on faisait la fête jusqu'à 2h du matin et tout le monde savait qu'à 2h05, il serait devant son bureau en train d'écrire de nouvelles idées dans son exégèse. De tout ça, Dick en a parlé pour la première fois en 1977 à Metz. Donc dans une conférence célèbre, où pour la première fois, devant un public médusé, je vous rappelle, hein, tous ces Parisiens qui venaient voir le chantre de la contre-culture, qui allait leur donner une révélation trotskiste de l'univers, et qui arrive devant eux avec une grande croix en bois sur le torse, et qui leur dit « J'ai vu Dieu ». Donc une incompréhension absolue. Et par la suite, Dick en a fait 3 romans, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle la trilogie divine, et qui va être réédité dans une traduction revue et complétée, c'est-à-dire qu'on a rajouté tout ce que le précédent traducteur avait coupé de son propre chef. Donc on a pour la première fois en France vraiment une édition parfaite, rééditée en février l'année prochaine chez De Noël. Donc on a Siva, l'invasion divine et la transmigration de Timothy Archer. Siva qui raconte, ça c'est un livre merveilleux, l'aventure de Phil Dick et de son ami Horslover Fat. Horslover, c'est l'ami des chevaux. Philippe, c'est Philippos en grec. Fat, eh bien, ça veut dire gros, qui se dit Dick en allemand. Donc on a Phil Dick, l'écrivain de science-fiction, et Horslover Fat, son alter ego Barjo, qui n'arrête pas d'avoir des visions mystiques et qui tombe amoureux toutes les 35 secondes. Donc un roman magistral où Dick met littéralement en scène, de manière littéraire, sa propre fêlure. Le roman suivant, L'invasion divine, se déroule dans le futur. Et cette fois, il raconte le retour de Dieu sur Terre. Le problème, c'est que Dieu s'est réincarné dans un enfant. Et que, comme c'est un roman de Philip K. Dick, Dieu est amnésique et ne se souvient pas de ses propres pouvoirs. Et c'est ce qui est gênant quand on doit lutter contre Bélial afin de sauver l'humanité. Et le troisième roman est magistral. Là, il n'y a pas de mots supplémentaires. Enfin, c'est un. Ça commence le jour de la mort de John Lennon. Et l'héroïne, Angel Archer, va assister à une conférence d'un gourou New Age. Et elle s'ennuie. Mais elle n'a pas le moral parce que c'est le jour de la mort de John Lennon. Et elle rêvasse. Et elle pense à toute sa vie. Et. C'est à la fois littérairement superbe et extrêmement dense. Et il y a ce personnage d'Angel Archer qui est une merveille, parce qu'il a réussi à créer, c'est la seule fois de sa carrière, un personnage féminin qui n'est ni ridicule, ni artificiel, que l'on sent palpiter d'à travers les pages, et qui doute. Angel Archer doute de la première à la dernière page. Ça ne va pas être celle qui aura la révélation mystique. Ce n'est pas elle qui va comprendre le sens de l'univers. Et quand on va lui expliquer des choses, ben elle va dire qu'elle ne sait pas, mais qu'elle veut aller de l'avant. Philip K. Dick, on lui avait proposé d'écrire la novélisation de Blade Runner. Qui était dans le tournage. Qui était annoncé comme étant enfin, le nouveau Star Wars. Donc Blade Runner, adapté d'un de ses romans, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Il vient d'être réédité cette semaine dans une nouvelle traduction qui est vraiment, vraiment très, très belle. Donc son agent lui dit... Bon, on te propose d'écrire la novélisation d'un film qui va faire un succès équivalent à Star Wars. On pense que ça devrait te faire dans les $400 000 minimum. Sauf que la production exige que l'on retire son roman original de la vente pour ne laisser que la novélisation à la place. Et Philip K. Dick dit non. Il refuse $400 000. Il préfère prendre les 1500 et écrire Timothy Archer. Il est mort avant de savoir que Blade Runner a été un bide total au moment de sa sortie. Je vous rappelle que lors de sa première exploitation en salle, ils n'ont pas remboursé les frais de production. Que en 1982, tout le monde, et certainement beaucoup de monde dans cette pièce, est allé voir E.T. au cinéma. Oui. Les gens voulaient voir une science-fiction joyeuse. Et certainement pas Harrison Ford de courir sous la pluie.
Vous culpabilisez là, hein, c'est ça. Simplement, alors justement, passons à la pratique et au cinéma. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a toujours autant Hollywood. Quels sont, parmi les 12 films, les films à ne pas manquer? Et pourquoi est-ce qu'il attire autant toujours les producteurs de cinéma?
C'est une question difficile. Mais tout d'abord, le cinéma dickien est un sous-genre. On a déjà un corpus de 12 films qui sont des adaptations directes. Mais si on pense à Dark City, Matrix, Inception, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Truman Show. Ce sont tous des films qui, d'une façon ou d'une autre, s'inspirent parfois très lourdement de Philip K. Dick. On pourrait penser à la télévision, à Lost. Sur les 12 adaptations, il n'y en a que deux de véritablement fidèles. Les autres sont, pour quelques-unes, des chefs-d'œuvre, et pour les autres, des navets. Blade Runner est l'adaptation de un tiers du roman, maximum. Le monde de Blade Runner est un monde où il pleut, de la pollution, avec Harrison Ford comme personnage principal, qui est le meilleur Blade Runner de la ville. Dans le livre, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Los Angeles a été, enfin le monde a été détruit par les conflits atomiques, donc la poussière est partout. Et Rick Deckard se voit confier la mission parce que c'est le dernier, tous les autres sont morts, et c'est le plus nul, mais bon. Ça... Et pour la petite histoire, pensez Blade Runner, Rick Deckard, René Descartes. Hein, je suis vivant, enfin, cogito ergo android. Donc Blade Runner est une trahison absolue. Dans le roman, le personnage accepte sa mission parce qu'il veut pouvoir s'acheter un animal vivant. Il a un mouton artificiel. Et s'il réussit à retirer 6 androïdes, il aura assez d'argent pour s'acheter un animal vivant. Voilà, tout ça a été coupé et n'est absolument absent du film, si ce n'est qu'il y a quelques allusions, on voit des animaux par moments dans des scènes. Ce sont des petits bouts du roman qui sont là. Après, il y a Total Recall. Total Recall, on ne parle pas de celui de cet été, hein, s'il vous plaît. Hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon. Là, on parle de Total Recall, qui est un film formidable, pour deux raisons. D'une part, le meilleur film, ou un des meilleurs films d'Arnold Schwarzenegger, qui a voulu ce film de A à Z. C'est Arnold Schwarzenegger qui a choisi le scénario, c'est lui qui a choisi Paul Verhoeven, c'est lui qui a menacé les producteurs de démissionner si il ne laissait pas Paul Verhoeven tourner le film comme il voulait. Il ne faut pas tomber dans la caricature de Arnold. Hein. Donc Total Recall a été voulu, désiré par Schwarzenegger, qui a profité de son statut de star pour offrir à Verhoeven le film qu'il voulait faire. Qui est un film brillant, qui n'adapte que le premier tiers de la nouvelle de Philip K. Dick. Une suite devait être tournée. Malheureusement, cela n'aura jamais lieu, parce que Schwarzenegger n'aura jamais trouvé de scénario qui lui convenait. Néanmoins, les droits avaient été achetés, et cette suite va devenir Minority Report. Tout s'enchaîne. Il y a, par exemple, dans la longue histoire de Total Recall, un jeune réalisateur canadien qui avait été embauché pour travailler sur le film, David Cronenberg. David Cronenberg découvre Philip K. Dick. Il n'en avait jamais lu. C'était simplement le jeune bonhomme qui venait de faire une chouette adaptation de Stephen King, et le producteur avait dit il va me faire une chouette adaptation de Philip K. Dick. Cronenberg propose 10 ou 12 scénarios avant d'être viré parce que ça devenait trop. Il a fait Vidéodrome, qui est un film totalement dickien. Il a fait Existence Z, qui est là aussi éminemment dickien. Il a travaillé sur une adaptation de Philip K. Dick qui était ubique pendant un temps, mais ça fait bon. Ça fait partie de tous les réalisateurs qui ont voulu s'attaquer à Philip K. Dick. Je pense notamment à Terry Gilliam, qui a essayé d'adapter Ubik. Il a longtemps essayé de faire une adaptation de Scanner Darkly, et il n'a jamais réussi à avoir le financement nécessaire, comme pour à peu près 90% de ses projets. Un film français en 92, Confession d'un barjot, de Jérôme Boivin, avec Hippolyte Girardot, qui est une petite merveille, C'est l'adaptation d'un roman de littérature générale. Et c'est. C'est aberrant. Le film n'est pas diffusé en DVD, enfin, encore moins en Blu-ray. C'est une transposition totalement heureuse de la petite vie californienne des années 50 dans la petite vie française des années 80-90. Si vous avez l'occasion, c'est souvent diffusé, diffusé sur les chaînes du câble. C'est un petit bijou. Il y a Hippolyte Girardot, il y a comment est-ce qu'il s'appelle ? Boringer et Anne Brochet. Vraiment une belle chose. Planète Hurlante, c'est une série B. Si vous en avez jamais vu, ce sera l'occasion. Donc c'est un film canadien qui est adapté sur un scénario du scénariste d'Alien et de Total Recall qui est un fou furieux de Dick qui est une splendide adaptation. Il y a juste les 5 dernières minutes que vous pouvez éviter. Vraiment un film totalement fauché, hein. Faut accepter que les décors soient pas formidables, que les trucages soient pas extraordinaires, parce qu'ils arrivent à retranscrire toute une ambiance de paranoïa absolue avec ces personnages qui sont les derniers soldats d'un conflit qui n'a plus de combattants parce qu'ils ont inventé une arme qui arrive à tuer absolument tout le monde et qui se reproduit toute seule. Il y a eu une suite, hein, mais ça, on ne va pas en parler. Non. Il y a eu plusieurs petits films. Je pense à Impostor, là, qui est Next. Là, c'est Vital Paycheck avec Ben Affleck. Next avec Nicolas Cage. Ça a strictement rien à voir. Ils ont acheté le droit de mettre Philippe Cadic sur l'affiche. Il n'y a eu aucun rapport avec le texte et une pauvreté qu'il faut savoir reconnaître. Donc Scanner d'Ackley qui est magnifique, c'est certainement un des romans les plus exigeants émotionnellement de Dick, et le réalisateur a fait le choix du rotoscoping, donc technologie qui consiste à filmer les acteurs et ensuite à peindre, plutôt à dessiner par-dessus l'image. Ce qui fait que nous avons un mélange entre le dessin animé et la prise de vue réelle, plutôt une fusion entre les deux, et qui permet d'additionner et d'ajouter des choses totalement dessinées. Et pour une histoire qui raconte celle de Junkie en train de manger de la substance, substance M en français, le choix est absolument exceptionnel. C'est vraiment, vraiment un très, très beau film. Bon, personnellement, j'adore Minority Report, qui est magnifique. La nouvelle raconte l'aventure d'un fonctionnaire de police de 50 ans, bedonnant, un peu chauve. Spielberg a réussi à capturer le sentiment de la nouvelle, tout en l'attirant un peu dans une veine post 11 septembre et dans une veine post post Kubrick. Il avait commencé à préparer le film, Kubrick est mort, donc Spielberg est parti faire AI, donc le film qui devait tourner en collaboration avec Kubrick. Et il a continué à travailler très longtemps sur Minority Report, et à la fin du tournage de AI, il a recommencé et il a relancé le tournage. Donc c'est un film qu'il a pris le temps de mûrir et de réfléchir. Ces dernières années, on a eu L'Agence avec Matt Damon, qui est une gentille bluette, ils ont gardé l'idée de ces espèces d'agents contrôle un schéma qui serait notre vie et qu'il s'agit de modifier régulièrement. Puis il y a eu Total Recall, le remake. J'ai toujours pas compris le film. Enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait le film. Même pas. Je crois pas que faire de l'argent soit une réponse suffisante. On parle d'artistes, ils doivent avoir un minimum d'intégrité. Non, enfin, je suis extrêmement sévère avec ce film parce qu'il est tellement positif. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu ou pas. Enfin, donc ils ont inventé beaucoup de choses. Donc le monde est divisé sur Terre, il n'y a plus que le nord et le sud, avec un tunnel qui traverse le globe terrestre et un ascenseur géant qui parcourt, donc qui amène les pauvres du sud pour aller travailler au nord. Bon. Et ils arrivent à avoir cette idée, donc les pauvres en bas, les riches en haut, l'ascenseur qui relie les deux, et à ne avoir aucun discours, alors je ne dis pas un discours politique, hein, mais aucun discours sociologique, social, aucune idée sur la notion d'oppression, rien. C'est-à-dire on est dans le politiquement correct absolu. C'est aussi lisse que le torse de Colin Farrell. Et il y a des robots tueurs qui ont des pistolets qui tirent et ils ratent toujours. Pendant une heure et demie, ils le ratent.
Ils sont pas doués,
les robots.
Ils sont mal programmés.
Donc, bon. L'originalité de ce corpus, c'est de se dire que, ben voilà, quoi. 30 ans après Blade Runner, on continue à travailler la matière de Dick. D'une part, parce que ces textes peuvent être résumés dans des pitchs de moins de 2 phrases. Je suis sûr qu'à Hollywood, ça aide. De plus, il y a ce fait qu'il y a... c'est pas un auteur visuel. C'est pas un auteur de la métaphore ou de la description. Vous n'allez pas avoir un style fleuri qui va vous emporter dans un monde qui va vous projeter tout un cinéma mental. C'est un cinéaste de l'idée, du concept... et de l'idée forte. Donc autant de choses qu'Hollywood peut prendre et tordre. Ridley Scott, dans la promotion de Prometheus, a annoncé qu'il voulait faire Blade Runner 2. Et qu'il avait embauché un scénariste. Et que voilà, et qu'il allait en parler avec Harrison Ford, un papy Ford. ils se sont détestés pendant le tournage. C'était une haine viscérale entre les deux hommes. Ils ne se sont pas parlé pendant plus de 20 ans après le film. Ridley Scott n'avait jamais lu un seul roman de Philip K. Dick. Il n'avait jamais lu le roman original de Philip K. Dick. Il refusait de lire le roman original. Tandis qu'Harrison Ford, lui, avait lu le livre. Ce qui fait qu'il ne s'entendait pas du tout sur la manière dont il devait interpréter le personnage. Ridley Scott toujours a dans les cartons une mini-série qui serait une adaptation pour la BBC du Maître du Haut-Château en plusieurs épisodes. Disney a en production l'adaptation d'une nouvelle de fantasy, d'ailleurs c'est la seule nouvelle de fantasy de Philip K. Dick, Le Roi des Elfes. Le problème c'est qu'on sait que les metteurs en scène ont été virés. Mais Disney ne communiquant absolument pas sur les films qui sont dans leur production, voilà, le film peut très bien ressurgir à un instant ou l'autre. Il y a eu en projet de faire un biopic, hein, une biographie filmée de Philip K. Dick. Le projet est actuellement en sommeil. Il y a eu une adaptation récente de Radio Libre Albemuth, qui est une adaptation fidèle à 100% au texte de Philip K. Dick. Film splendide. Qui a été tourné pour le budget de une demi-seconde d'Avatar. Avec des acteurs qui sont voilà, totalement investis dans leur projet. Le film actuellement fait le tour des festivals dans le monde entier. Il va sortir dans un petit circuit aux États-Unis avant d'avoir une diffusion vidéo. Donc il est possible d'adapter Philip K. Dick de manière fidèle et intelligente.
Et puis Bic.
Et puis bon, Michel Gondry qui travaille sur l'adaptation du Bic. Juste après avoir terminé son adaptation de Vian qu'il est en train d'achever. il écrit le scénario, il travaille en collaboration avec les ayants droit, c'est-à-dire les enfants de Philip K. Dick. On ne sait absolument pas, hein, c'est Hollywood, si une fois que le scénario sera fait, si on passera à l'étape suivante, qui sera la production. Plusieurs nouvelles de Philip K. Dick sont en train de tomber dans le domaine public, ce qui fait que le droit d'adaptation maintenant va être encore plus démultiplié. Je pense qu'il va y avoir quelques petites surprises de ce côté-là. On parle d'une série télévisée L'Agence. Les éditions Proust viennent de sortir en bande dessinée une adaptation de donc, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, Blade Runner, en 6 volumes. Une adaptation extrêmement particulière parce que c'est une adaptation littérale du texte. Hein, nous avons les dit-il, pensa-t-il. Le texte est complètement adapté dans la bande dessinée. Puis après, on pourrait parler jeux vidéo, on pourrait parler réédition. Il y a quand même cette idée qui est pour moi une source d'émerveillement, que cet écrivain qui était publié dans des petites collections de science-fiction au début de sa carrière, les Ace Double, donc des collections à 3 francs 6 sous, il y avait deux romans publiés tête bêche. Comme ça, vous aviez deux livres pour le prix d'un. Avec des couvertures assez improbables. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de roman de Philip K. Dick traduit. L'intégralité de son œuvre de fiction, écrite par lui, a été traduite en France. Que ce soit ses nouvelles, l'intégralité des romans publiés de son vivant, l'intégralité de ses textes posthumes, l'exégèse qui sort l'année prochaine, tout ça pour un petit écrivain de science-fiction du côté de San Francisco. L'influence de Philip K. Dick a dépassé la littérature, touche maintenant l'ensemble des domaines artistiques, avec une espèce d'écho obsédant. Alors je sais peut-être moi qui suis hyper sensibilisé, mais le nombre de personnes, ou alors c'est que ça fait chic maintenant de dire que je suis fan de Philip K. Dick, c'est assez effarant de constater cela. Nous sommes 30 ans après sa mort, encore plus proches de ce que nous étions il y a 30 ans. Et cela est absolument merveilleux. C'est unique. Je ne vois aucun autre exemple actuel. On vient de sortir Jules Verne dans la Pléiade. Donc maintenant, j'attends qu'il sorte des auteurs de science-fiction pour que nous puissions nous aussi honorer nos écrivains comme Philip K. Dick peut l'être aux États-Unis.
Si quelqu'un a un contact dans la Pléiade, c'est le moment. On arrive à la fin de cette discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser à Étienne Varier? Profitez-la, il est là rien pour vous.
Oui, je vous ai tapé chez Vert parce que justement. À première vue, la matière première n'est pas cinématographique. La matière première de Dick, c'est psychologique, c'est toujours c'est beaucoup plus écrit et cérébral. Et je trouve que certains films, ils ont, évidemment, ils en ont rajouté un petit peu, hein, peut-être même un peu beaucoup, mais enfin, je trouve quand même que ça permet, si on commence par ça, ça donne envie, ce qu'on n'a pas toujours fait, de lire le. L'œuvre originale.
Oui, parce que la réédition de Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques, en gros, sur la couverture, il y a quand même marqué Blade Runner.
Mais ça, oui, c'est du marketing.
Toute adaptation est par essence une trahison. Ce sont deux médiums. Il est impossible qu'un film puisse adapter un roman. Par nature, en 2 heures d'histoire, je ne peux pas adapter un roman que je vais passer je ne sais pas combien d'heures à lire.
Oui, non, mais c'est vrai.
Mais après, le problème, c'est que soit, si la trahison est belle, Blade Runner, la trahison est splendide. Et pourtant, on a 5 versions différentes du film dans le dernier coffret Blu-ray. Donc, voilà. Mais après, quand on voit Next, Pourquoi dépenser de l'argent pour acheter une nouvelle de Philip K. Dick ? Ils auraient pu faire un scénario original avec le même budget, les mêmes acteurs, et je suis sûr que cela aurait été plus intéressant. Donc, l'idée pour moi, c'est partir vers l'adaptation. Enfin, je n'ai rien contre l'adaptation. Mais au moins qu'elle propose quelque chose, qu'elle ait quelque chose à dire. Total Recall avec Schwarzenegger, il y a quelque chose à dire. Il suffit de voir le nombre de fois où Verhoeven multiplie les scènes avec des miroirs, des doubles, des jeux de reflets, pour voir qu'il est en train de saboter sa propre mise en scène d'un film d'action. Et en toute volonté, et avec une espèce de plaisir un peu méchant.
Là, c'est à la fois paranoïaque et trouble du rêve. Parce qu'en fait, comme souvent dans les histoires de Dick, dans mes films bien faits de Dick, c'est qu'il faut avoir deux cerveaux pour le voir. Il y a un moment, comme au moment où il prend la pilule, d'ailleurs, dans Total Recall, c'est où l'histoire se divise en deux. Il y a deux possibilités, et il faut continuer à voir le film avec ces deux possibilités en permanence à la tête.
Alors, Verhoeven a toujours dit que son Total Recall se terminait par un fondu au blanc,
oui,
et non pas par un fondu au noir traditionnel, pour justement marquer la mort du personnage suite à son réveil. Pour le peur. Mais il a aussi dit qu'il avait fait exprès dans sa mise en scène de supprimer tout ce qui pouvait être indice donnant à penser ce que l'on pouvait. Et voilà, de laisser les possibles ouverts. C'est la même chose dans Minority Report. Quand le personnage de Tom Cruise se trouve emprisonné à la fin du film, on lui projette en permanence ses souvenirs et on peut très bien imaginer que toute la suite du film, à partir de ce moment-là, n'est qu'une construction mentale qu'il est en train de se faire alors qu'il est en prison. Ça serait un peu la fin de Brésil. Mais voilà, qu'on me prenne pour quelqu'un d'intelligent. Le Total Recall de Len Wiseman ne prend pas son spectateur pour quelqu'un d'intelligent, il prend son spectateur pour quelqu'un qui veut passer un moment avec du ratata poum poum et des jolies filles qui courent. Alors, je n'ai rien contre.
Mais c'est un autre.
Et l'adolescent en moi était toujours heureux.
Je rassure.
Ouais. Ah non, mais l'héroïne est en petite culotte, Colin Farrell est torse nu, tous les segments de la population peuvent être contents d'en suivre. Mais ça devient tellement aseptisé. Voilà. Il faut avoir quelque chose à dire.
À propos de la difficulté de transposer, il y a une anecdote que vous connaissez sûrement, que j'ai appris récemment, la nouvelle de Robert Sheckley, La dixième victime. On en a tiré un film italien, et Robert Sheckley, du film, a tiré une novelette, c'est quand même incroyable comme histoire, il en a fait un petit bouquin, quoi. À travers le film venant de sa nouvelle à lui. C'est rigolo comme truc.
Voilà, sauf que Philip K. Dick, bon, il a pu entendre, il avait déjà été adapté plusieurs fois dans des émissions de radio. Il avait été adapté une fois à la télévision, à la BBC, sauf que la BBC, dans sa grande sagesse, avait décidé dans les années 70 de jeter ou de ré-effacer tous leurs enregistrements. Donc tout ça s'est perdu. Lui n'a jamais vu ce que son œuvre allait devenir. Il en a juste eu un aperçu quand il est venu en France et qu'on l'a amené dans une librairie et qu'on lui a montré les traductions françaises de ses romans, des couvertures cartonnées, des beaux livres, de belles couvertures, et qu'il a vu ces Français, c'est une drôle de créature. qui le considérait comme un écrivain pour la première fois de sa vie, pas un écrivain de science-fiction, un écrivain, voire un grand écrivain. Des équipes de tournage qui venaient à l'ORTF, qui dans sa grande sagesse avait donné de l'argent à des journalistes qui étaient allés interviewer tous les auteurs californiens de l'époque. Les visiteurs du futur, c'est visible sur le site de l'INA, et ils avaient amené Philip K. Dick avec Norman Spinrad se faire interviewer à Disneyland. Donc c'est génial comme idée, parce que Philip K. Dick en train de, il est dans des, vous savez les tasses géantes, et il est en train de disserter sur la nature du double, de l'illusion, de l'androïde. C'est Disney qui avait fabriqué ses premiers androïdes en forme de Abraham Lincoln, et qui récitait les discours d'Abraham Lincoln. Donc, voilà, à la fin de sa vie, il connaissait cette reconnaissance-là. À la fin de sa vie, les ventes de ses traductions à travers le monde lui apportaient un confort financier qu'il n'a jamais eu tout le reste de son existence. Si ce n'est que, voilà, et bien, il a fallu qu'il fasse une attaque cérébrale, et qui fait qu'au bout de 3 jours, on a débranché les machines. Et maintenant, il est enterré dans le Colorado, à côté de Jane.
Ta sœur.
Ouais.
À côté
de sa sœur.
Oui, oui.
Ils ont dû revoir le cercueil, quand même.
Mais non, enfin, la photo de la tombe est visible facilement sur Internet. Vous avez Jane, et juste à côté, Philippe. Le personnage, le thème du double est un thème récurrent, constant de tous ses films, de toute son œuvre. Que ce soit un double féminin, que ce soit un double bénéfique, une espèce d'ange gardien. Il ne faut pas chercher très très loin pour voir une analogie très, très personnelle. Quand sa première fille est née, il a dit à sa femme: « Maintenant, Jane est compensée. » Voilà, ça a été la grande absente de toute sa vie, a été cette jumelle qu'il n'a jamais connue. Il n'y a pas de mots. C'est triste, mais c'est aussi beau, parce qu'il en a fait de l'art.
Bien. Il a bien plombé l'ambiance, mais si vous avez encore une question, on a encore 5 minutes.
À quel moment avez-vous trouvé un intérêt profond pour Philippe Cadic? Est-ce que c'était depuis
le premier roman de Philippe Cadic que j'avais lu, je l'avais détesté. Parce que je suis tombé sur un de ses romans, il y en a 2-3, qui est écrit en 15 jours, si pas 5, pour gagner de l'argent. Il y a quelques très 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 mauvais livres. Puis après j'ai lu Ubik et j'ai été bouleversé parce que adolescent je lisais énormément. Je lisais aussi bien la science-fiction que les classiques. J'avais pas de limite. Mais c'est la première fois que je lisais un écrivain qui me donnait l'impression de toucher des points sensibles. C'est-à-dire que quand je refermais le livre était toujours là. C'est la première fois que j'ai eu cette impression-là, d'une façon étrange, persiste. Mais ça, ce sont des rencontres. Je pense que n'importe quel lecteur a la même histoire avec quelqu'un d'autre. Mais bon, il s'avère qu'avec Philippe Cadic, nous sommes nombreux à travers le monde à aimer cet homme, quel qu'il ait été, aussi bien pour son œuvre que pour ce qu'il nous apporte, tout simplement.
Est-ce que vous avez une dernière question?
Moi, je voulais savoir si vous savez s'il a eu des amitiés avec d'autres écrivains.
Ah oui, oui. Il avait beaucoup d'amis écrivains. Alors, il y avait ceux de sa génération, les copains du coin. Hein, il y avait, en Californie, il y avait beaucoup d'auteurs qui vivaient par là. Ceux qu'il voyait dans des conventions, ceux avec qui il s'engueulait. Et surtout, là, il est moins de 20 ans, ça va. Il avait une correspondance extraordinairement fournie. Il pouvait écrire 5-10 lettres par jour. Donc il discutait avec beaucoup, beaucoup de monde. Et il a eu aussi beaucoup d'amis qui étaient de jeunes étudiants de l'Université de Californie et qui sont devenus écrivains par la suite. Hein, je pense à K.W. Jeter, James Blaylock ou Tim Powers, qui devait venir à Nantes. Donc voilà, il y a aussi un petit passage qui a eu lieu autour de lui. Mais il parlait beaucoup De ses romans, il parlait beaucoup de son travail. C'était pas un, lui, c'était pas un auteur du secret ou du travail enfermé dans son laboratoire. D'ailleurs, il est très intéressant de voir dans les interviews comment, ben, d'une semaine à l'autre ou dans sa correspondance, telle intrigue sur laquelle il est en train de travailler évolue au fur et à mesure, et que des fois, on a vraiment l'impression qu'il réfléchit à voix haute et qu'il est en train de se demander comment il va s'en sortir. Mais il avait des amis, et pour certains, enfin des amis écrivains, pour certains des amis vraiment intimes. Hein, je pense à Norman Spinrad, qui sera à Nantes cette année, et nous parlerons de Philippe K. Dick.
Spinrad, c'est un auteur de science-fiction.
Oui, et qui a écrit un des plus beaux textes, un des plus bels hommages sur son ami Philippe K. Dick.
Vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a fait un livre avec lui. On va pouvoir passer peut-être. Je regarde les organisateurs. On va vous offrir les gâteaux. Car le gâteau permet d'aborder Étienne Barillet en toute décontraction et sans aucune gêne. Hein, donc voilà, on va remercier surtout Étienne et la médiation.